Nous sommes mardi 17 octobre 2023, fidèles auditeurs. Merci de suivre le journal de 17h au micro de Rukayat Abdrahman. Suite à une attaque d'individus armés non identifiés, les populations d'un village du département de Saï, Kouaramorgou, ont quitté le village pour se réfugier à Tamou, à suivre plus de précisions dans un instant. Trois malfrats avec en leur possession des armes de guerre et des objets volés sont présentés aux autorités départementales d'Arlit. Les détails dans ce journal. La partie magazine de ce soir parle de santé, qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine et quels sont les facteurs de risque. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Le dimanche 15 octobre 2023, le village de Kouaramorgou, appelé aussi Caritas, à 5 km de Tamou, département de Saï, région de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières, s'est vidé de ses habitants suite à une attaque des hommes armés non identifiés, selon des sources locales. 180 personnes de 40 ménages ont fui ce village pour se réfugier à Tamou, chef-lieu de la commune. Ils ont été logés dans une école. Ils attendent impatiemment l'aide des bonnes volontés car leur situation est déplorable selon ces sources. Toujours dans la commune de Tamou, en juin passé, plus de 300 000 personnes des villages de Diapanga et Ballarimaybe ont fui les exactions et menaces des terroristes opérant dans cette zone. Les autorités communales de Tamou lancent un appel aux bonnes volontés pour appuyer ces personnes déplacées internes qui ont abandonné leurs habitations, champs, habits, biens et animaux. Le directeur départemental de la police d'Arlit a présenté aux autorités départementales en présence du préfet et du procureur trois malfrats dangereux qui empêchent la population de vaquer normalement à ses occupations. Ces individus ont été arrêtés par la police avec un arsenal de guerre, plus des objets volés ou arrachés pendant leurs activités, suivant à ce propos Tassiou Ibrahim, directeur départemental de la police. Il est au micro de Ousmane Oumar.
Nous voici pour la dernière fois pour vous présenter la saisie suivie de l'interpellation que nous avons pu mener dans la ville d'Arlit, comme vous le voyez présentement. Il s'agit de trois individus, vraiment des bandits très dangereux. Peut-être que je n'ai pas besoin de les dire vu l'arsenal de guerre qu'ils disposent. Et c'est des gens vraiment qui opèrent sur les différents axes routiers qui dérangent énormément la population. Dieu merci, Dieu nous a donné vraiment la chance de les interpeller et nous avons jugé utile vraiment de vous les présenter, monsieur le procureur. Ce que vous venez de voir aussi, c'est des marchandises avec lesquelles on les a pris, vraiment, c'est le butin de leurs opérations qu'ils ont y amené de la bourse.
Le gouverneur de la région de Zinder a entrepris une tournée dans son entité administrative. Objectif, s'enquérir des besoins de la population de sa région. Le gouverneur, qui est accompagné de plusieurs responsables des services techniques et du sultan de Damagaram, s'est intéressé aux questions sanitaires dans le département de Matamé. Occasion saisie par le gouverneur d'attirer l'attention des agents de santé et des maires sur les manquements. Labo Issoufou, gouverneur de la région de Zinder, est au micro de Habou Salki Saleh.
En ce qui concerne les agents de santé, lorsqu'un agent de santé commet une faute professionnelle et que cela persiste, il doit être sanctionné. La sanction peut être une affectation. S'il a du mal à exécuter ses tâches comme il le faut, il nous incombe de lui changer de service et de le remplacer par celui qui est le plus apte à faire le travail. Et quand c'est un maire qui ne fournit pas les bons produits ou qui achète des produits non autorisés, alors c'est au préfet qu'appartient le droit de l'interpeller sur ses actions, afin qu'il devienne plus responsable dans l'exécution de ses tâches et aussi de mettre fin au détournement, car l'argent et les biens appartiennent à la communauté. Et détourner cet argent revient à trahir la confiance que la communauté a placée en lui. J'ai déjà dit aux maires qu'ils ont eu de la chance d'avoir conservé leur poste, mais ils doivent doubler de vigilance.
La semaine dernière, le préfet de Gaya a entrepris une tournée de sensibilisation auprès des éleveurs et agriculteurs de 5 communes du département de Gaya. L'objectif était d'instaurer un climat de paix et de cohésion sociale pendant cette période de récolte, une période sensible où les tensions entre agriculteurs et éleveurs peuvent potentiellement s'accentuer. Capitaine Bourayma Saini, préfet de Gaya, est au micro de Fadel Alou.
Nous sommes en période de récolte, d'où le problème endémique et crucial même, c'est toujours le conflit éleveur-agriculteur. De ce fait, nous nous sommes permis de sillonner les 5 communes, notamment Tanda, Bengou, Bana, Tunuga et Yelou, pour justement faire la sensibilisation, pour au moins prévenir ces conflits. Vous savez, dans ce cadre de figure, tout le monde est fautif. Parce que vous allez voir des aires de repos, des couloirs de passage et même des points d'abreuvage des animaux qui sont occupés par les cultivateurs. Et de l'autre côté, il y a le problème du pâturage nocturne. Il y a aussi les animaux qui sont conduits par les petits-enfants et qui, eux, ne se soucient pas des champs. Là aussi, on a pu s'entendre et que les éleveurs ont décidé de ne plus donner les animaux aux petits-enfants.
Suite à l'ordonnance numéro 2023-02 du 11 octobre 2023 portant création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, les citoyens de la ville de Dosso se sont exprimés suivant ce micro-trottoir au micro de Nana Adizassan.
Nous accueillons cette décision les bras ouverts. Moi, en tant que citoyen, je pense qu'ils doivent aller même au-delà du pourcentage annoncé.
Partout où les Nigériens se trouvent sont d'accord avec cette initiative à 100%. À mon avis, même si c'est chaque matin qu'on va prélever cet argent, je suis d'accord à 100%, car c'est des choses qui vont aider notre pays.
C'est vraiment quelque chose de bien. Le patriotisme est une affaire de tous. Nous n'avons rien à perdre si on donne une modeste contribution pour la bonne marche du pays.
Un État, c'est comme une famille où tous les membres doivent contribuer en cas de souci. Ils doivent aussi se focaliser sur des secteurs comme la loterie, les stations-service, les maisons d'assurance et autres. C'est la situation qui l'oblige et c'est pour la stabilité du pays.
À l'occasion d'une session tenue dans la commune rurale de Bazaga, située à environ 15 km du département de Birnin-Konni, les autorités communales ont pris des mesures de sensibiliser la population sur le gaspillage des récoltes quand on sait que la campagne agricole est déficitaire dans plusieurs localités du Niger. Pour plus de précisions, écoutons le maire de la commune de Bazaga, El Hadj Manou Ibrahim, au micro d'Assoumane Moussarzika.
Les conseillers se sont réunis et ils ont évoqué l'importance de sensibiliser la population. Pour cela, on a pris des dispositions entre les conseillers, les chefs de quartier et les marabouts pour voir comment pallier à cette situation. Chacun apporte sa contribution pour sensibiliser les gens sur les méfaits du gaspillage lors des cérémonies de mariage ou de baptême. Il y a le problème des criquets dans les champs. La pluie n'a pas été abondante et dans certains endroits, on n'a pas récolté. Les gens doivent éviter le gaspillage.
Les autorités de la transition continuent de chercher des voies et moyens pour soulager les consommateurs nigériens. Suite à la hausse des prix des céréales, cette situation a été accentuée avec la fermeture des frontières et le comportement des commerçants véreux. Mohamed Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata, est au micro de Leila Nou.
Il y a de la pure spéculation, de la malhonnêteté de certains opérateurs économiques qui ont presque le monopole de l'importation de certaines céréales, notamment du riz. Automatiquement, quand la CEDEAO a administré à notre pays les sanctions, ces gens-là ont fait passer le prix du riz de 11 500 à 12 500, voire 13 500. Et depuis lors, c'est ce calvaire que nous sommes en train de connaître. Et malheureusement, le prix a atteint son paroxysme autour de 15 000, 16 000 à Niamey et au-delà à l'intérieur du pays. Donc c'est cela la réalité malheureusement. Mais pour les autres céréales, on a constaté en tout cas une baisse relative, notamment le mil et le maïs. C'est à nous, aux nouvelles autorités, de prendre des initiatives pour que ce qui est disponible sur le marché ou ce qui est importé ne soit pas trop cher à la population, surtout celle qui n'a pas assez de ressources. C'est de cadrer le prix de ce produit-là.
La commune urbaine de Maine-et-Sorwa donne l'exemple dans le cadre de la scolarisation des enfants en situation d'handicap. En effet, beaucoup sont inscrits dans différents établissements de la commune. Il est tout de même important de créer les conditions permettant à ces enfants de bien poursuivre leurs études. Comment protéger ces enfants en milieu scolaire? Ramot Moussa, directrice de l'école primaire Toudouwada de Maine-et-Sorwa, a répondu à cette question au micro de Maman Idrissa.
En ce qui concerne les enfants en situation de handicap, ils sont au nombre de 15. Ceux qui ont des troubles de vision sont 3, dont 2 filles et 1 garçon. Les enfants qui ont des problèmes oculaires sont au nombre de 5, dont 2 garçons et 3 filles. Il y a aussi des enfants malentendants, 1 garçon et 1 fille. Nous accueillons aussi des enfants qui souffrent de lésions au niveau des pieds. Ils sont au nombre de 3, 2 filles et 1 garçon. Nous accueillons également des enfants malades mentaux. Tous ces enfants que je viens de citer étudient dans la même classe. Ils sont au même niveau que les enfants qui sont bien portants. La seule différence, pendant les répétitions, pour les malentendants, l'enseignante doit parler un peu plus fort. Notre objectif, c'est de voir tous ces enfants étudier au même titre que les autres enfants.
Le manque d'eau potable, d'électricité et du matériel pour la formation sont les facteurs qui minent la formation des jeunes filles et femmes du centre de promotion des jeunes du département du Saï. La cinquantaine de jeunes filles et femmes sont fières de leur apprentissage, mais déplorent cette situation qui ne favorise pas leur apprentissage. Rukaya Hamma, troisième année au foyer, donne plus de précision au micro de notre envoyé spécial Soumane Amadou.
Nous apprenons à broder, à tricoter des ensembles, à coudre des habits. On nous apprend aussi comment tenir nos foyers à travers l'économie familiale. Nous avons la volonté d'apprendre, mais nous n'avons pas de matériel. Certaines de nos machines sont en panne à cause du manque d'électricité parce que les factures sont impayées. Nous n'avons même pas de robinet. Nous partons chercher de l'eau dans des bidons. Et même pour aller aux toilettes, il faut partir avec un sachet d'eau. Ce n'est pas normal. Nous voulons bien travailler, mais les conditions ne sont pas réunies.
Et puis la partie magazine de cette édition. La grossesse extra-utérine est une grossesse qui se développe hors de la cavité utérine, dans la trompe de Fallope ou ailleurs. C'est une urgence chirurgicale qui mérite d'être très vite diagnostiquée afin d'éviter l'ablation des trompes. Plusieurs facteurs sont à l'origine. Qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine et quels sont ses facteurs de risque? Docteur Alain Tunkara, gynécologue au centre mère-enfant de Zender, explique au micro de Zara Boukar.
La grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui s'implante et se développe en dehors de la cavité utérine. L'œuf va se trouver ailleurs et va essayer de se développer ailleurs que l'endroit où il doit être.
Quelles sont les causes de cette pathologie?
On ne peut pas parler tellement de causes, mais il faut parler cette fois-ci peut-être des facteurs de risque. C'est entre autres les infections sexuellement transmissibles qui vont entraîner donc une perturbation de la trompe avec l'avènement des chichas et le tabagisme. Un autre facteur, c'est les antécédents de chirurgie pelvienne. C'est-à-dire qu'une femme qu'on a opérée, juste le bas-ventre, a plus de risques de faire une grossesse extra-utérine. Un autre facteur de risque, maintenant, qui sont moindres, c'est surtout la contraception. Il y a l'antécédent de la GEU.
Comment la femme peut-elle savoir qu'elle développe une grossesse extra-utérine?
Il y a ce qu'on a, nous appelons la triade. La triade, c'est 3 signes. Lorsqu'il y a une aménorrhée, c'est-à-dire que les moments des règles vient et que la femme n'a pas vu ses règles. Lorsqu'il y a des douleurs pelviennes, des douleurs de bas-ventre, lorsqu'il y a une métroragie, c'est-à-dire les saignements, ça c'est les 3 signes en tout cas importants qui cadrent. Maintenant derrière ces signes, on peut avoir une femme qui a des signes de grossesse et ce qui est important surtout, c'est l'échographie.
Quelles sont les complications s'il n'est pas vite détecté?
Déjà, quand on parle de grossesse extra-utérine, c'est une grossesse donc qui a lieu dans un endroit où elle ne doit pas avoir lieu. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la grossesse évolue, il y aura un éclatement.
C'est tout pour ce journal. Merci et au revoir.